sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes qui est présentée en collaboration avec la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour, communément appelée la SPIB. Et comme toujours, je suis accompagné de son président-directeur général, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors, nous avons aujourd'hui deux invités que nous allons présenter dans quelques instants en studio. Donc, je vais te laisser le plaisir de le faire à tantôt. Mais avant tout, je veux rappeler aux auditeurs et auditrices qu'il est possible de poser vos questions en allant tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et en cliquant sur « Poser vos questions ». Sinon, vous pouvez transmettre vos questions par texto. Par téléphone 819-519-9050, 819-519-9050. Alors, avant de présenter nos invités, un petit retour sur l'actualité comme toujours. Évidemment, bon, on peut pas passer sous silence la démission du premier ministre François Legault. Bon, il reste en poste jusqu'à un successeur, ou une successeur, quelqu'un qui va lui succéder. Mais quand même, une grosse nouvelle la semaine passée, la démission du premier ministre François Legault. Comment on réagit comme PDG du parc? Parce que, bon, on sait que orientation gouvernementale, premier ministre, SPIB, donc il y a quand même des liens à travers tout ça.
Là. Oui, bien évidemment, quand il y a des annonces, hein, les gens le voient, le premier ministre qui vient aux annonces et tout ça. Mais tu sais, au quotidien, moi, je travaille avec le personnel des différents ministères. Ça, donc, c'est vraiment ça ne change pas. Et puis, c'est sûr que dans le cas de Bécancour, ce que le gouvernement pouvait faire, il l'a déjà fait pour nous aider. Mm-hmm. Fait que donc, pour la suite, si les gens se questionnent, OK, le changement de premier ministre, évidemment, c'est une année électorale, on ne sait pas trop ce qui nous réserve, mais la problématique n'est pas tant une problématique conventionnellement. Non, c'est une problématique de politique, de géopolitique qui concerne nos voisins du Sud. Mm-hmm. Fait que donc, ce que le gouvernement va faire pour nous appuyer, avec tous les travaux d'infrastructure qu'on a fait, il le fait, on est avancé. Ça fait que donc, il n'y a pas nécessairement d'impact pour la suite de la SPIB avec cette annonce-là.
Puis on verra aussi si la ministre de l'Économie, Christine Fréchette, va démissionner pour devenir candidate. Ça sera peut-être un impact indirect par rapport à la SPIB.
Oui, mais de l'autre côté, ça va demeurer la même chose. C'est que le personnel du ministère de l'Économie demeure le même. Mm-hmm. Et puis les dossiers qui sont pris en charge, bien, on les continue. Je veux pas dire qu'il n'y aura pas d'impact, mais tu sais, c'est quand même pas au quotidien qu'on discute avec les élus pour faire avancer des dossiers.
Autre grosse nouvelle, c'est évidemment cette entente Canada-Chine qui ouvre la porte à des véhicules électriques chinois, puis aussi à de nouvelles perspectives pour la filière batterie. Là.
Oui, ben, mais la réaction à ça, puis c'est quand même, il y a de l'inconnu devant nous, hein, mais c'est sûr que ce qu'on vit, c'est les politiques américaines, hein, vraiment de lever le pied sur l'électrification des transports, donc moins de véhicules électriques, mais pas juste là-dessus, sur le solaire, sur l'éolien, mm-hmm. tout ça. Ça fait, donc, on avait comme le choix, le gouvernement fédéral avait comme le choix de « OK, on regarde ça, puis on est-tu une victime ou on tente quelque chose? » Puis c'est un peu un coup de pied dans une ruche d'abeilles qui a été fait. Et puis, il faut surveiller ce qui va se passer. Mais assurément, le ralentissement qu'on vit, pas juste à Bécancour, mais au Canada, sur le créneau des batteries, c'est une problématique de marché. Mm-hmm. Donc, le marché américain est au ralenti. Puis moi, c'est ça ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est comment les constructeurs américains nord-américains vont se comporter là-dedans. Là. Pour un GM, pour un Ford, Stellantis, ils disent « Oh, OK, nous, on a levé le pied un petit peu au Canada, mais c'est quand même une menace pour eux. » Mm-hmm. Au-delà de la géopolitique, il y a des entreprises privées derrière ça. Fait que c'est sûr, il va falloir observer aussi comment que les autres se comportent. Mais pour moi, je trouve que c'est... Évidemment, je ne sais pas quelle sera la suite, quels seront les impacts, mais assurément, ça va provoquer quelque chose. La technologie des plaques au niveau économique bouge. Fait que donc, il faut vraiment surveiller ce que ça va provoquer.
On a même évoqué à moyen terme, long terme, une usine chinoise peut-être au Québec.
Oui, mais c'est sûr qu'il faudra... McCartney, je pense que ça semble être un bon joueur d'échecs. Donc, à travers toute cette partie-là, il faudra mm-hmm. tirer profit le plus possible. Puis les minéraux critiques, ben, on les a. Puis la Chine va en chercher partout ailleurs dans le monde, va en chercher beaucoup en Afrique. Fait que donc, ça serait logique qu'il y ait une entente à tout le moins sur les minéraux critiques et stratégiques, les matériaux de batterie.
Donc, notre premier invité connaît ça, la géopolitique.
Oui, pas mal.
Donc, je laisserai le soin de nous présenter notre premier invité de l'heure.
Écoute, il y aurait plusieurs façons de la présenter.
Court.
Oui,
vas-y
oui.
Court.
Bon, Julie Boulay, donc c'est la façon courte. Mais Julie, tu travailles actuellement à la Ville de Bécancour, au développement économique. Et ceux qui se demandent, bon, OK, c'est-tu la Julie Boulay que je connais ou que j'ai entendu? Fait que oui, c'est la Julie Boulay qu'on connaît. qui a été active comme députée, comme ministre, il y a quand même certaines années. Mais oui. Écoute, tout ça, tu as fait ça en plus d'être pharmacienne. Donc, tu as plus un historique quand même assez long. Mais merci d'être avec nous, Julie, aujourd'hui pour nous parler du développement économique qui se passe à la Ville, en particulier dans le parc PME de la Ville.
Oui, parce que, bon, écoutez, toujours un plaisir de revoir Julie. On a eu l'occasion pendant des années, comme journaliste, oui. Comme aussi politicienne, de se voir régulièrement. Mais donc, c'est toujours un plaisir de te revoir, Julie, puis on se tutoie, puis il n'y a pas de problème avec ça, comme on dit.
Pas du tout.
Mais donc, effectivement, le parc PME, peut-être que les gens sont plus ou moins familiers avec le parc PME. On parle beaucoup du parc industriel de Bécancour, mais le parc PME, une petite histoire de ce parc-là, Julie.
Ben alors, permettez-moi, je vais dire d'entrée de jeu, bonjour à Donald, bonjour à Marc, ça me fait plaisir d'être là, puis je voudrais saluer tous les auditeurs et auditrices là, qui vous écoutent à chaque semaine. Je pense que c'est de l'information qui est toujours bienvenue. Il y aura Karine tout à l'heure, alors je vais les laisser vous présenter, Karine, avant de... Mais moi, je la salue. Alors, ben écoutez, le parc PME, premièrement, parc PME, qu'est-ce que ça veut dire PME? Là, c'est pour les petites et moyennes entreprises. Et c'était une volonté de la ville, je veux dire à l'époque, là, mais ça ne fait pas plusieurs décennies, on parle au début des années 2020, la ville voyait que le parc industriel qui est sur son territoire se développait par période à grande vitesse, d'autres périodes un peu moins vite, mais qu'il y avait des grandes entreprises qui venaient s'y établir et la ville avait une volonté de dire comment on peut nous s'inscrire en complémentarité de ce grand parc-là. Alors, comment on peut offrir des terrains pour des petites et moyennes entreprises qui souhaiteraient être des sous-traitants, qui souhaiteraient s'inscrire dans les mêmes secteurs d'activité économique que le grand parc. Là, on parle de la filière batterie ou des minéraux stratégiques, critiques et stratégiques. Alors, on peut-tu offrir des terrains ou des locaux à ces gens-là qui souhaiteraient venir s'établir et soit des start-up? Parce que d'entrée de jeu. Alors, la ville a acquis un morceau de terrain qui appartenait autrefois au parc industriel. Donc, la ville l'a acquis. Je ne saurais même pas vous dire à l'époque
Maurice était en poste.
Oui, c'était Maurice qui était en poste. Est-ce qu'il y a eu un achat de terrain ou... Je pense que oui. Le parc industriel a vendu une parcelle de terrain qui était à son extrémité ouest. Et là, la ville, elle a divisé ce terrain-là en 23. Il y a 23 terrains qui étaient disponibles au départ. Et en plus, la ville a également initié un projet d'un incubateur de parc industriel, donc qui accueille des start-up. Donc, l'incubateur a été construit en 2020-2021 et c'est trois locaux d'à peu près 5000 pieds carrés chaque, avec un espace où on a des bureaux. Donc, chacun des incubés peut évidemment recevoir des clients, faire la démonstration de ses produits. Donc, il y a un petit bureau que chacun des locataires peut louer. Mais ces trois espaces qui sont significatifs, 5000 pieds carrés, c'est tout de même un grand espace. Et là, on peut accueillir des start-up qui sont dans les secteurs industriels, para-industriels ou de recherche. Et l'objectif de la ville, c'était qu'après leur incubation, ces entreprises-là puissent acheter un terrain à proximité, donc dans le même parc PME, pour après ça y ériger une entreprise où il y aura des opérations.
Donald?
Oui, puis peut-être juste pour les auditeurs, pour bien situer, tu disais à l'extrémité ouest. Fait que donc, c'est un peu entre la voie ferrée et puis l'intersection de l'aréna. Donc, du côté nord de l'autoroute, les derniers projets, on a vu Fournel, CLB, on va en parler un peu. Mais c'est vraiment adjacent, les deux parcs se touchent. Et puis, c'est de Jean de Mers jusqu'au Shell, à peu près. Là.
Derrière la caserne de pompiers. Ouais, hein, Donald, on peut dire ça comme ça. Derrière la caserne de pompiers du secteur de Bécancour.
Donc, initialement, 23 terrains. Puis, il y a des promoteurs qui ont acheté plus d'un terrain,
oui,
je pense.
Oui, oui, tout à fait. Alors, évidemment, il y a des promoteurs qui en ont acheté deux. Il y a des promoteurs qui en ont même un qui en a acheté trois terrains. Évidemment, dans leur contrat d'achat, ils ont 2 ans, 24 mois pour procéder à la construction. Donc, aujourd'hui, on passe dans le parc, puis évidemment, tous les terrains ne sont pas en construction, mais on en a quelques-uns dont les bâtiments sont érigés à l'heure actuelle et d'autres qui devraient procéder là, pour le printemps à venir. Là.
Mais pratiquement complet?
Je vous dirais qu'il reste à peu près deux terrains à vendre, là, des gens, en fait, qui devaient venir se construire, mais finalement, qui vont agrandir, qui vont demeurer au parc 3055, là, toujours à Bécancourt, mais à la sortie du pont. Donc, ces deux terrains-là ont été rétrocédés et sont toujours disponibles là, à l'heure actuelle.
Comment le parc PME va se compléter ou compétitionner, mais je pense que ça va plus se compléter par rapport au site Laprade, où on envisage peut-être des PME là aussi?
Ouais. Bien, dans le fond, c'est que le Julien en parlait, il est pratiquement plein. Oui. Donc, il reste deux terrains. Nous, Laprade, il faut développer, il faut amener les infrastructures. Ça fait que donc, assurément, il n'y aura pas de plage de temps de compétition, parce que je suis convaincu que lorsqu'on sera prêt à accueillir des entreprises à Laprade, dans quelques années, ben les deux terrains devraient avoir trouvé preneur. Puis, tu sais, c'est comme, il faut trouver les bons projets. Ça fait que nous, il n'y aura pas... D'accord. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme une compétition du tout. C'est surtout d'être sûr d'avoir encore de l'offre pour les années à venir.
Puis, Marc, tu sais, je pense qu'on en a déjà parlé, mais on a des entreprises qui se sont construites là, dans le parc PME, comme la Vigne et Barry, qui profitent beaucoup à l'heure actuelle de l'essor au parc industriel. Donc, la Vigne et Barry qui était déjà pas loin du parc PME, mais qui voulait se reconstruire pour agrandir, pour moderniser ses équipements. Alors, la Vigne et Barry a pris deux terrains. Et on a également une entreprise comme Contrôle Laurentide qui arrive directement de Montréal et qui, lui, accompagne beaucoup d'entreprises du territoire et beaucoup d'entreprises du parc industriel parce qu'entre autres, il fait de l'automatisation, de la modernisation. Comment une entreprise qui existe déjà peut optimiser ses procédés, devenir plus efficace avec de l'automatisation? Alors ça, c'est vraiment une valeur ajoutée et c'est directement en lien avec l'expansion qu'a pris le parc industriel. Là.
Puis donc aussi, il y a Contrôle Laurentide, Construction Lavigne-Barry, on l'en a mentionné, Loutec, je pense.
Il y a Loutec qui est un bâtiment qui a été construit par une entreprise de Bécancour, mais finalement qui a décidé de louer ces espaces. Donc, Loutec s'est installé pour un bail de 10 ans. Alors, pour louer de la machinerie, des équipements, tous ceux qui en auront besoin à proximité. Et un élément fort aussi de ce parc-là, c'est Fournelco. Mmh. Alors, Fournelco est dans notre incubateur depuis le départ. Donc, ça fait 5 ans qu'il est là. Et lui, son objectif, c'était éventuellement de sortir de l'incubateur. Et il est à l'heure actuelle en train de construire sa propre entreprise. Mais, fait intéressant, Fournelco, ce sont des propriétaires fonciers qui possèdent beaucoup de terrain, notamment à Saint-Angèle-de-Laval. À Saint-Angèle, il y a le plateau Laval qu'on appelle, et Fournelco est propriétaire, je pense, de près de 10 000 terrains qui va développer au fur et à mesure, là, dans la prochaine décennie. Alors, lui, ce qu'il voulait, M. Fournel, Jérémy, il disait, moi, comment je peux être plus efficace si je suis capable, rapidement, avec des pièces qui sont faites en industrie, de monter une structure de bâtiment, la coquille, finalement, d'une maison ou d'un complexe, là, un multilogement, de monter la coquille très, très rapidement. Je sauve du temps, ça me demande moins de personnel, puis je peux répondre rapidement à la demande, là. Alors, Fournelco, c'est ce qu'il fait à l'heure actuelle, ce qu'il construit, c'est une usine où il va préfabriquer les murs des constructions qui, après ça, vont atterrir, notamment au plateau Laval, mais dans plusieurs autres secteurs de la ville, là.
Donc, l'incubateur aussi, est-ce que lui est complet, l'incubateur?
À l'heure actuelle, il est complet, mais Fournelco utilise deux locaux à l'heure actuelle et Fournelco devrait quitter là, dans les prochains mois. Mais j'ai déjà un locataire qui travaille dans le secteur minier qui va venir reconditionner des pièces qui sont utilisées à l'heure actuelle dans le secteur minier, mais qui sont pas qui sont jetées. Alors, lui, il va les reconditionner. Alors, ce locataire-là devrait arriver d'ici le mois de mai.
Dans le parc PME, il y a un bâtiment blanc inutilisé présentement?
Il y a un gros bâtiment blanc et eux, ce sont eux qui avaient acheté au départ très rapidement 3 terrains.
Okay.
C'est une entreprise de Saint-Hyacinthe qui s'appelle JMV Environnement. Et au départ, ils avaient un projet d'ensachage. Je dis tout le temps ce mot-là, parce que chaque fois, je m'en fâche. Alors, d'ensachage de poudre de ciment qui devait arriver par le port. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que pour l'instant, le bâtiment, il est à vendre. Et j'ai encore vérifié cette semaine. Et il n'y a pas de ventes qui sont conclues à l'heure actuelle.
D'accord. Ouais. Donald, avant d'aller à la pause, peut-être souligner l'importance du parc PME, de l'incubateur aussi par rapport à tout l'environnement du parc industriel.
Oui, parce que tu sais, les grosses entreprises, évidemment, on sait qu'il y a une faune et une flore autour économique et puis vraiment, c'est un complément. Et puis l'incubateur, ben, c'est précieux d'avoir ça. Puis il y a vraiment une demande pour des locaux. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui voudraient s'installer, mais que ça ne leur tente pas de passer à travers un projet de construction. Donc, d'avoir des pieds carrés à louer, comme le bâtiment blanc qu'on parle sur Raoul Duchesne, je suis convaincu qu'il pourra avoir un preneur ou locataire parce qu'il y a quand même une demande importante.
Bien, écoutez, déjà rendu à la pause et déjà on a fait le tour rapidement avec notre invité, notre première invitée aujourd'hui, Julie Boulay, directrice du développement économique à la Ville de Bécancour. Merci beaucoup, Julie, d'être passée dans nos studios.
Ça me fait plaisir d'être parmi vous.
Puis je pense que c'est important de faire connaître le parc PME, faire connaître l'incubateur. Et merci encore. Et après la pause, Donald, tu nous présenteras notre deuxième invité. On parlera environnement, qualité de l'air. Donc, on revient après la pause. Et d'ici là, ben, on invite les gens à nous écrire, à poser vos questions, à téléphoner, à texter au 819-519-9050, 819-519-9050, ou on peut aller sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et on clique sur « Poser vos questions ». Alors, profitez de l'occasion de poser vos questions à Donald Olivier et à nos invités aujourd'hui pour Le Parc en 30 minutes. On se retrouve après la pause.
De retour à l'émission « Le Parc en 30 minutes ». Avec Marc Rochette.
Oui, de retour avec nouvelle invitée cette fois. Je te laisse encore une fois le privilège de nous la présenter, Donald.
Oui, oui. Donc, Karine Richard, directrice soutien technique et environnement, ma collègue à la Société du Parc. Donc, merci d'être avec nous, Karine.
Ça fait plaisir.
Karine qui est déjà venue nous visiter,
oui,
d'ailleurs.
Oui, encore, c'est
ben
ça.
Oui, ben oui, l'habituée, presque.
Oui, je pense qu'elle y prend goût.
Ben oui.
Ouais.
C'est comme une drogue, venir ici. Donc, Karine, on voulait parler avec toi aujourd'hui de ce programme de surveillance de la qualité de l'air ambiant. Mais je pense que Donald va peut-être nous mettre ça en contexte, oui, pourquoi c'est important, oui, la démarche derrière tout ça, puis aussi l'idée de rassurer la population là-dedans.
Oui, le déclencheur, puis Karine pourra vraiment aider à comprendre ce que c'est, là. Mais le déclencheur, moi, je suis arrivé en 2022 en poste, et puis ça, c'est la même été, l'été 2022, où est-ce qu'à Rouyn-Noranda, tout a éclaté là, par rapport aux préoccupations avec la fonderie Horn.
Mm-hmm.
Et puis, bon, il y a quand même plusieurs usines dans le parc, on en accueille des nouvelles, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe et tout ça, puis comment on pourrait s'assurer de ne pas vivre la même chose.
Donc, toi, tu as eu le réflexe, là.
Moi, j'ai eu le réflexe de dire, OK, il faudrait faire quelque chose, mais il faut voir aussi que j'arrivais de Gentilly 2. Mm-hmm. Ou est-ce que dans le nucléaire, de faire des programmes de surveillance environnementale qui vont au-delà du site, ça fait partie de la normalité. Donc, c'est comme si j'ai dit, OK, ce qu'on faisait dans le cadre nucléaire, on pourrait peut-être l'adapter au parc industriel plus large. Et puis donc, c'est un peu de là que l'idée est arrivée. Et puis de se dire, bon, c'est pas normal que des citoyens se mobilisent pour faire des relevés eux-mêmes, pour voir si la situation est correcte ou pas. Donc, je me disais, nous, il faudrait être proactifs. Et puis, il y a aussi les Wabanaki, la nation Wabanaki, qui nous soulevait des préoccupations face à ce qui est appelé les effets cumulatifs. Une usine respecte les normes, l'autre usine respecte les normes, l'autre usine aussi, tout le monde respecte les normes. Mais qu'en est-il après 10 usines, 15 usines, 20 usines? Fait que là, c'est une façon d'aller au-delà de la réglementation, mais c'est une façon de se donner l'assurance ou à tout le moins de voir comment ça évolue en termes de qualité de l'air. Fait que donc, c'est vraiment le déclencheur. Et puis, quand j'ai amené ça à Karine, ben, elle a sauté sur cette opportunité-là parce qu'elle avait ça en tête aussi. Donc, on a foncé dans ce dossier-là.
Puis, on sait que plus que jamais, l'acceptabilité sociale, c'est un enjeu incontournable dans des dossiers de développement, industriel, quoi que ce soit.
Oui, puis on ne se lancera pas dans la définition de ce que c'est l'acceptabilité sociale, mais moi, je peux te dire comment je l'ai abordé dans ce dossier-là, c'est prendre soin de notre monde.
Oui, c'est ça.
Prendre soin de notre monde, là. C'est comme ça qu'on l'a abordé, puis les gens sont en droit de voir s'il y a une problématique ou pas. Donc, on a mis en place ce qu'il fallait pour y arriver.
Donc, une fois que la haute direction de la SPIB a cette vision, Karine, toi, bon, comment on met en place une telle initiative?
Oui, bien, tu sais, comme Donald le disait, nous, ça faisait longtemps qu'on réfléchissait à ça, puis l'objectif, c'était vraiment d'avoir une vision 360 du parc. Donc, quels sont les impacts cumulatifs du parc en général sur la population citoyenne? Donc, la première chose qu'on a faite, c'est une étude de préfaisabilité. Donc, comment qu'on fait ça? Bon, on a pris le premier sujet qui est la qualité de l'air, puis on s'est posé la question, bon, combien de stations ça prend pour bien mesurer la qualité de l'air dans le parc, l'emplacement des stations, où est-ce qu'on les pose, qu'est-ce qu'on doit aussi monitorer, quels sont les contaminants du parc industriel. Donc, la première étape, ça a été vraiment cette étude-là de préfaisabilité. Et pour s'assurer que ce soit conséquent avec les besoins des gens autour, bien, on a formé aussi un comité de pilotage. Donc, ce comité-là, bien, on présentait avec la firme qu'on avait engagée qu'est-ce qu'on voulait mettre en place, et c'est eux qui déterminaient si, oui ou non, pour eux, ça faisait du sens. Donc, la nation Abenaki, qui a a été dans les premiers à soulever le point, était évidemment sur le comité. La ville de Bécancour aussi, pour parler au, pour les citoyens. Il y a le CIUS MCQ aussi qui était présent, tout à fait. Et bien évidemment, le ministère de l'Environnement et les entreprises du parc qui sont, dans le fond, les principaux émetteurs là, de contaminants dans le parc industriel.
Donc, on met en place un comité de pilotage qui est toujours en vigueur, ce comité-là, ou c'est plus pour initier le projet qu'il c'était était nécessaire?
C'était pour initier le projet. Dans le fond, okay. Les entreprises du parc, ce qui est important de savoir, c'est que ce sont elles qui financent le programme. Donc, on a une quinzaine d'entreprises, là, je ne vais pas toutes les nommer, on a une quinzaine d'entreprises qui financent ce programme-là. Donc, une fois qu'on a, autant pour l'étude de préfaisabilité que pour le programme qui a été mis en place par la suite.
Donald, c'est volontaire? Comment ça fonctionne?
Moi, dans le fond, on a abordé les entreprises, puis clairement, la SPIB aurait pu payer ça seul. Mais on a dit, OK, s'il y en a une qui embarque, on divisera la facture en deux. S'il y en a deux, ben on divisera, ainsi de suite. Mais finalement,
il y en a combien?
15. Wow. Donc, on divise la facture en 15. Fait que ça, c'est de l'ordre de 150 à 160 000 par année qu'on a besoin globalement. Donc, c'est quand même... Moi, je suis fier qu'on ait réussi ça, parce que pour les auditeurs, il faut qu'ils réalisent que les entreprises acceptent de payer pour avoir une vigie de plus que ce qui est requis par le règlement. Fait que les lois et règlements. Fait que non, nous, on va au-delà des lois et règlements. Fait que les entreprises, non seulement, ils acceptent qu'on aille au-delà des lois et règlements, mais ils acceptent de financer ce programme-là. Fait que donc, je suis assez fier qu'on ait réussi à les convaincre. Puis ça donne aussi un peu une idée aux citoyens de quel genre d'entreprises sont dans le parc. Mm-hmm. C'est pas des entreprises qui veulent se cacher puis qui sont pas prêts à faire face à la musique. C'est des entreprises qui veulent gérer de façon responsable. Et s'il y a un enjeu, ben on s'est tous dit, on peut pas savoir à l'avance quel sera l'enjeu s'il y en arrive un. Mais on s'est tous dit, il faudra le gérer s'il y en arrive, et puis on devra le prendre en charge.
On peut dire que ça sent la transparence. Hein? On parle de qualité de l'air. Là. Donc, je pense que c'est important pour la population. C'est rassurant pour les gens de savoir que, bon, il y a quand même cette implication volontaire des entreprises aussi de...
Oui, en fait, c'est super important de comprendre que c'est pas un objectif réglementaire. Il y a rien qui nous obligeait à faire ça, et il y a rien qui oblige les entreprises à participer. Comme Donald a expliqué au début, chaque entreprise a ses propres autorisations au niveau de la qualité de l'air. Mais là, on s'est dit, on embarque tout le monde ensemble, puis on monitore qu'est-ce qui se passe dans notre parc industriel pour les citoyens.
Puis justement, pour les citoyens, comment ces citoyens-là seront informés ou sont informés de ce qui se passe dans ce dossier-là.
Oui, mais les stations ont été mises en fonction, là, il y a de cela à peu près un mois. Puis l'objectif, là, c'est vraiment, donc, à l'hiver 2027, de produire un rapport vulgarisé. Donc, pour nous, c'était super important. C'est quand on fait une demande au niveau du ministère de l'Environnement, on reçoit la donnée d'une entreprise. C'est du chinois pour la plupart des gens. Là. Même moi qui est dans le domaine, je lis ça, puis... Ça fait pas de sens. Donc, pour nous, c'était vraiment important. Le rapport, là, tout le monde est capable de le lire et tout le monde est capable de le comprendre. Donc, à l'hiver 2027, on va publier ce rapport-là sur nos réseaux sociaux, sur notre site web et tout ça, dans un objectif vraiment de transparence. Donc, tout le monde va pouvoir le prendre, le comprendre, puis pouvoir vraiment voir si la qualité de l'air est bonne dans le parc ou non et autour.
Donc, on va s'assurer que les choses soient bien communiquées. Là.
Bien communiquées. Puis quand Karine a dit qu'il faut que ça soit accessible, c'est qu'il ne faut pas être un spécialiste en environnement ou en chimie pour comprendre le rapport. Et puis, je fais quand même aussi un clin d'œil à la Rive-Nord, parce que, tu sais, on a trois stations sur la Rive-Sud, une près du secteur Bécancour, une dans le parc, une près du secteur Gentil, mais il y en a une à Champlain. Il y en a une à Champlain aussi. Ça fait que donc, on a un souci, vraiment, ton 360 degrés, Karine, là, on s'est posé la question aussi, qu'en est-il de l'autre côté du fleuve? Ça fait que donc, c'est ces quatre stations-là.
Bien là, on parle de qualité de l'air. Il y en a qui vont dire, moi, pourquoi on n'a pas testé la qualité de l'eau, le sol?
Bien, c'est le but, en fait. Le but, c'est de travailler la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité du sol. Mais il fallait commencer par un projet, donc un programme. C'est un peu la théorie des petits pas aussi pour que les entreprises embarquent dans le programme. Donc, la qualité de l'air, c'était la principale préoccupation des citoyens. Donc, on a commencé par celui-là, mais ce n'est que le début.
OK. Donc, ça va venir.
Bien, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, il faut voir que, bon, Hydro-Québec avec la centrale nucléaire ont quand même, eux autres, un programme. Fait que donc, qualité de l'eau, évidemment, ils mesurent par rapport à leur impact à eux, ce qu'ils provoquent. Mais il y a déjà des trucs qui se font. Mais assurément, il faut tenter d'aller plus loin. Et puis, toujours dans la transparence. Donc, vraiment, je pense que c'est là que ça se joue. Puis vraiment, le bout de vulgariser, c'est que, bon, les gens pourraient aller lire le rapport de Gentil 2, il y a un rapport de surveillance. Mais c'est quand même, bon, moi, c'est moi qui le signais à l'époque quand j'étais là, avant qu'il soit publié, mais c'est quand même plus dur, tu sais, on peut comprendre vos conclusions, mais nous, vraiment, on ne souhaite pas avoir un document super épais avec toutes les données pour noyer les gens, mais vraiment, qu'est-ce qu'il faut retenir d'eux? Puis c'est quand même une firme, c'est pas notre personnel qui va écrire ce rapport-là. T'sais, donc, on veut avoir une firme externe qui va dire ce qu'il y a à dire.
D'accord.
Et puis, pour pas qu'il y ait de filtre de notre part. Là.
Donc, manifestement, la SPIB aurait été proactive par rapport à la qualité de l'air ambiant avec ce programme de surveillance. Là.
Oui, tout à fait. Puis, c'est quelque chose qu'on a signé aussi sur 5 ans. Donc, c'est D'accord. pas juste sur une année. Donc, on signe avec les entreprises et avec la firme sur 5 ans. Les stations sont louées aussi pour 5 années. Comme ça, si on se rend compte après 5 ans, bien, qu'on devrait bouger une station, on devrait en ajouter une, bien, tout est possible. Donc, c'est vraiment la phase test qu'on fait pour les 5 prochaines années. Puis par la suite, si on a à s'ajuster, bien, on le fait.
Oui, parce que, tu sais, moi, de mon côté, évidemment, comme tous vous autres, je ne suis pas éternel, mais ce que je souhaiterais, c'est que ce programme-là soit là à perpétuité. Mm-hmm. Je m'explique, c'est que, bon, il va toujours avoir un parc industriel. Ça se pourrait, dans 5 ans, qu'on se rende compte que, oh, OK, on pensait mesurer tel effet, on ne mesure rien. Donc, si on ne mesure rien, on n'arrêtera pas de mesurer. On va se questionner qu'est-ce qu'on devrait faire. On doit-tu allonger notre plage de mesure? Au lieu de mesurer à chaque jour, on mesurera à chaque semaine. Au lieu de mesurer tel type de contaminant, on en mesurera un autre. Mais assurément, à chaque 5 ans, il faudra se questionner. Le programme a-tu eu l'effet qu'on escomptait? Et s'il faut l'adapter, il faudra l'adapter. Diminuer le nombre de stations, augmenter le nombre de stations, mesurer des trucs différents. C'est vraiment l'attitude qu'il faudrait avoir.
Donc, c'est à suivre pour ce qui va sortir en 2027, à l'hiver 2027, les premières données ou les données finales?
Oui,
ou,
bien en fait, c'est le rapport.
Le rapport fond,
c'est pas la donnée brute qu'on donne accès, c'est vraiment un rapport vulgarisé. Okay. La donnée a été prémâchée. Puis...
Bon. Oui, parce que ce qu'on souhaite, c'est avoir à peu près 12 mois de données. Donc, une année complète de données. Par la suite, le consultant analyse tout ça. Ça fait que, donc, ça serait sur une base de 12 mois les données de janvier à décembre. Après ça, l'hiver ou au printemps, que l'année qui suit, on publie les résultats, et ainsi de suite.
Alors, je te laisse le mot de la fin pour saluer notre invité, ben notre oui, deuxième invité ben, aujourd'hui.
Merci, Karine. Ben, il prend vraiment un goût. Là, je suis sûr qu'il va revenir.
Oui, tout à fait.
mais on a vraiment, blague à part, on a des belles initiatives en environnement, puis merci de venir nous aider à les expliquer, parce que moi, je ne suis pas biologiste comme toi, fait que donc je peux l'expliquer, mais pas aussi bien que toi. Puis merci encore à Julie de s'être prêtée au jeu, là, d'être venue avec nous. Là.
Oui, on avait vraiment deux bonnes invités encore aujourd'hui avec Donald Olivier, notre fidèle collaborateur à chaque émission. Donc, merci Karine, merci Julie donc pour votre disponibilité, pour nous avoir expliqué chacun vos dossiers respectifs. Et on termine donc cette émission avec cette invitation à être avec nous la semaine prochaine en direct. Toujours, on va recevoir le PDG d'une entreprise du parc Hydrexcel, c'est-à-dire Joachim Blanchette, alors qu'ils vont nous parler d'Hydrexcel. Une compagnie importante dans le parc.
Oui, qui est établie depuis milieu des années 80 environ, là, donc entreprise qui a changé de main. Donc, Joachim est à la deuxième génération. Ça va être intéressant de l'avoir avec nous.
Donc, c'est notre rendez-vous, le parc en 30 minutes la semaine prochaine avec Joachim Blanchette d'Hydrexcel. D'ici là, ben, c'est Marc Rochette qui vous souhaite une bonne semaine. Mais d'ici cette prochaine émission, on invite encore les gens à nous écrire, à poser vos questions. On n'a pas eu l'occasion d'en traiter aujourd'hui, mais on le souhaite la semaine prochaine. Donc, en allant sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, en cliquant sur « Poser vos questions ». Et toujours, on peut le faire par texto, par téléphone, 819-519-9050, 819-519-9050. Donc, Le Parc en 30 minutes, on rappelle que c'est là pour vous informer sur le parc industriel et portuaire de Bécancour. Bonne semaine à tous et à lundi prochain.